Frères et sœurs, c'est avec émotion que nous allons ouvrir ce premier temps de la retraite paroissiale voulue à l'occasion de l'année de prière pour le sacerdoce. Par les pères André Merville, José Vanos et moi-même, que monte en ce moment mon action de grâce pour les prêtres, mais aussi pour les fidèles qui m'ont aidé à vivre, à découvrir ce que peut signifier le sacerdoce ministériel que j'ai reçu par l'ordination. Afin de mieux cerner le sens que peut revêtir le mot sacerdoce, je vous propose dans ce premier propos de distinguer le sacerdoce commun des fidèles, reçu dans le baptême, du sacerdoce ordonné des prêtres à la suite du Christ, afin que tout homme puisse participer à la perfection d'amour voulue et donnée par Dieu. Chacun, en effet, par son baptême, est disposé à accueillir l'appel de Dieu par la contemplation de la création, comme le disait déjà le Concile Vatican Ier. Chacun peut reconnaître la présence et l'appel de Dieu sur sa vie et la vie de ses frères. Cependant, l'attente de bonheur et d'équilibre est perturbée par tous les mal-vivres, tous les cataclysmes. Le constat est évident depuis les temps les plus anciens de l'histoire de cette présence de la souffrance et du mal, des ruptures d'unité, des guerres. Dans les temps anciens, et je dois cette réflexion au cours du père Jacques Bernard de l'IFAC dans la formation Message, dans les temps anciens, disais-je, les hommes ont perçu le différentiel entre l'idéal et la réalité, qui est de souffrance, de blessure. Cette rupture entre la puissance de divinité et la vie des hommes, l'action des hommes. Nos anciens ont donc pensé appeler Dieu à la rescousse, les divinités à la rescousse, pour rétablir l'ordre. Ou bien encore, ils ont pensé pouvoir offrir des compensations pour calmer quelques courroux divins, d'où l'idée des sacrifices qui allèrent parfois jusqu'au sacrifice humain et pas seulement ceux du bétail ou des premiers fruits de la moisson. On en trouve les traces dans l'archéologie, dans les textes anciens. Ce premier raisonnement, donc, c'est si nous avons fait un mauvais usage de la création et que l'ordre des choses en semble perturbé, eh bien c'est que nous avons causé le courroux des puissances supérieures, le courroux de Dieu, et il nous faut les calmer en offrant des compensations. Cette attitude n'est pas étrangère à celle que nous avons parfois lorsque nous nous disons « Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu, pour mériter cela ?» Un second raisonnement a été très vite venu aux hommes, c'est que devant le Dieu créateur, dans le monothéisme, le Dieu unique, qui a voulu disposer pour nous du bonheur et de la paix, de l'ordre et de l'équilibre, eh bien, il est nécessaire de se conformer à son désir, à ce qu'il est, à ce qu'il a voulu. Et cet appel retentit avec l'idée d'une législation qui va nous permettre de retrouver cet équilibre. Nous en trouvons la trace dans nos vies, comme un appel à chercher toujours l'unité. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, Jéthro, prêtre de Madian, qui n'est pas un juif, mais qui est le beau-père de Moïse, lui donne un conseil, celui d'appeler autour de lui des anciens, des sages, par l'expérience, des notables. Lorsqu'il rencontre Moïse au désert, il le voit occupé toute la journée à trancher les innombrables différends inévitables aux membres d'un groupe humain. Jéthro recommande donc à son gendre de faire juger les cas mineurs par des hommes de valeur, craignant Dieu, dignes de confiance et incorruptibles, réservant à Moïse le jugement des affaires importantes et le soin d'être le médiateur entre Dieu et le peuple. « Emploie-toi, dit-il, personnellement devant Dieu, pour le peuple, et porte-lui leur litige. » Ce n'est donc pas une simple sagesse humaine qui détermine la dé décision, c'est avec Dieu qu'elle doit être prise. Si nous continuons de comparer le livre d'Exode avec le livre des Nombres, au chapitre 11, qui évoque cette même situation de Moïse et de Yétro, nous découvrons que c'est bien Dieu qui ordonne, qui met de l'ordre, et Moïse qui invite à aller dans cet ordre. Dieu répand sur Moïse, d'abord sur Moïse seul, et puis ensuite sur les 70 anciens, son esprit. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre en eux, lit-on au livre des Nombres, chapitre 11, verset 17. Cette scène nous montre bien que cet esprit n'est pas seulement la force d'âme personnelle de Moïse, ce qui viendrait de nous et que nous aurions érigé en loi pour bien vivre ensemble. L'esprit qui met l'unité et qui mène toute chose à sa perfection, c'est un esprit qui vient de Dieu et que nous pouvons reconnaître dans nos cœurs comme un appel, un désir à vivre bien ensemble. Puisque l'espérance de Moïse, c'est de voir le Seigneur mettre son esprit sur tout son peuple et qu'il le constate dans les 70 anciens, notre regard est invinciblement attiré vers la nouvelle alliance. La plénitude de l'alliance proposée par Dieu, accomplie en son Fils. On lit en effet que, eh bien, saint Pierre dit dans sa deuxième épître que le Seigneur est venu pour se constituer une communauté sacerdotale, un royaume de prêtres, une nation sainte. Tous, nous pouvons parler à Dieu par la prière. Parler de Dieu en partageant à nos frères les attentes et les soucis de chacun, en recevant le soin par l'Esprit du Seigneur d'encourager la vie. Ce désir est inscrit dans l'ordre même de la création. Tous, nous pouvons recevoir de Dieu la capacité de mettre en œuvre notre baptême en vivant de la vie divine. C'est cela le sacerdoce baptismal. Nous avons tous à rendre grâce à Dieu par une vie qui participe à son désir, de son désir, exprimé à travers l'acte créateur. Nous avons à être témoins, à mettre en œuvre sa volonté. Nous pouvons ainsi, prêtres, prophètes et rois par le baptême, entrer dans ce dialogue intime et découvrir ce que nous sommes pour lui, afin d'être par lui, présentant nos vies comme une offrande de restitution de la puissance de vie. Nous pouvons aussi être prophètes, c'est-à-dire nous interpeller mutuellement, nous stimuler, nous encourager à vivre de la vie même de Dieu. Et puis, cette royauté, eh bien, c'est le service de la vie que nous devons rendre les uns aux autres, parce que telle est la mission, l'appel que Dieu nous lance, être serviteur et veiller à ce que chacun ait de quoi mener son existence. Le roi devait veiller à cela dans les temps anciens. Ce n'était pas forcément de donner à tous la même chose, mais de permettre à chacun d'avoir de quoi vivre. Poursuivons. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7 et jusqu'au chapitre 10, apparaît un autre type de sacerdoce qui s'apparente plus pleinement à celui du Christ. Le sacerdoce ministériel conféré aux prêtres par l'ordination. Saint Paul rappelle Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui est allé à la rencontre d'Abraham et qui l'a béni. C'est à lui qu'Abraham remet la dîme de tout ce qu'il a acquis. Melchisédek porte un nom qui se traduit par roi de justice. Il est aussi le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix. Dans l'Écriture, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement à ses jours. On n'indique pas le terme de sa vie. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons assimilé le visage de Melchisédek à celui du Fils de Dieu, resté prêtre à perpétuité. On était parvenu à un parfait accomplissement dans le sacerdoce lévitique. Nous sommes dépositaires de sacerdoce par le baptême. Oui, nous avons une base, une législation donnée au peuple qui nous permet de régler entre nous tous les aléas de la vie et retrouver les chemins de la vie. Mais il est besoin encore de susciter un au-delà à nos vies, afin que nous ne restions pas enfermés par nos erreurs, que nous ne restions pas captifs de nos blessures. Au lieu de le désigner dans la lignée d'Aaron, c'est-à-dire dans la lignée sacerdotale, dans cet appel dressé sur chacune de nos vies à parler à Dieu, parler de Dieu, vivre et exercer la présence de Dieu, puissance de vie. Le texte que je cite donne à Jésus une origine qui n'est pas celle tirée de la caste sacerdotale. À l'évidence, il est besoin d'un autre prêtre, à l'image de Melchisédek, un prêtre dont le sacerdoce ne s'épuise pas avec la vie terrestre, mais qui, en vertu de sa filiation divine, en vertu de sa divinité, va accomplir notre humanité. Ce Jésus qui accomplit notre humanité en son corps et la porte à la divinité nous donne une puissance indestructible. Et d'ailleurs, à son baptême, une voix depuis les cieux a dit « Tu es prêtre, en toi j'ai fait reposer tout mon amour ». C'est une alliance parfaite, une meilleure alliance que celle dont nous sommes les simples dépositaires qui nous est proposée, celle qui nous fait trouver une puissance en dehors de nous, dans le partage, dans la vie en plénitude. Ce sacerdoce est exclusif. Il est celui du Christ lui-même. Il est la manière définitive que Dieu s'est donnée pour nous approcher de lui, pour nous permettre toujours de retrouver ce chemin, sa faveur. Le Christ est bien ce grand prêtre qui nous convient, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, élevé au plus haut des cieux, mais qui en même temps a connu la condition du péché et a fait mourir le péché en le clouant avec lui sur la croix. Comme il est le Dieu saint, il nous permet d'associer l'offrande, les sacrifices, chaque jour. Il nous permet de faire sacrer nos propres vies, les dégageant des enfermements du péché, de nos limites. Il le fait une fois pour toutes, s'offrant comme un chemin d'accomplissement, de création parfaite. Le Seigneur Jésus, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, Saint Jean, chapitre 10, verset 36, nous fait participer tous à son corps mystique, à l'onction de l'Esprit qu'il a reçu. En lui, tous les chrétiens deviennent un sacerdoce saint et royal, offrant des sacrifices spirituels à Dieu par le Père, offrant aussi, par leur vie qu'ils conforment par l'effort et le partage avec leurs frères, un sacrifice réel. Ce sacrifice trouve son accomplissement et sa plénitude dans l'efficacité du don de Dieu dans la vie du Christ. Et il n'y a donc aucun membre qui soit à part. Tous participent de la mission du corps tout entier. Et Jésus, qui s'offre à nous et qui, à travers sa souffrance, achève en nous la naissance à la vie éternelle, rend ce témoignage de ce que Dieu a voulu, de ce que Dieu a mis en œuvre, de ce qu'il a créé. Le même Seigneur a fait de nous un seul corps, et tous dans ce corps, eh bien, n'ont pas la même fonction. Il a établi des ministères variés dans la communauté. Ainsi, dans le mariage, le ministère de pouvoir porter la vie de celui qu'on a reçu et qu'on a la charge de faire grandir, mais celui aussi de faire apparaître ce don généreux au point qu'il engendre des vies nouvelles. Celui du prêtre ordonné est de permettre en ce monde que le sacrifice du Christ nous rejoigne, que nous puissions choisir d'y être associés. Ainsi, le prêtre, par les paroles mêmes du Christ, tient lieu de la présence du Christ. Il n'est pas un autre Dieu, un autre Christ, mais dans la personne du Christ, in persona Christi, dit-on en termes théologiques, eh bien, il permet que la fonction sacerdotale de Jésus soit encore exercée en ce monde. Quand le Christ a envoyé ses apôtres, il leur donne la même mission que celle qu'il avait reçue du prêtre. Non pas de réitérer, mais de permettre que, de façon neuve, à chaque instant, nous soyons dans la plénitude de vie, dans la plénitude de Dieu. Cette fonction ministérielle confiée au prêtre, à un degré subordonné, puisque la plénitude de l'ordre a été disposée pour les évêques, dont les prêtres sont les collaborateurs avisés, permet l'accomplissement en chacun de nous par la reconnaissance de nos dons, qui, lorsqu'ils sont mis en œuvre et partagés, peuvent être reconnus en Église comme des charismes, comme venant de Dieu. La fonction de prêtre, en tant que tel, est donc unie à l'ordre épiscopal, unie au Christ tête, celui qui, le premier, à la tête de tout son corps, de tout le troupeau, nous permet de voir comment le Seigneur nous a sanctifiés et comment aujourd'hui encore il nous gouverne. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres est conféré au moyen d'un sacrement particulier, unique, l'onction de l'Esprit-Saint, qui le marque de ce caractère spécial, les configurant au Christ. Prêtres, pour rendre leurs frères capables de recevoir et d'agir dans le dynamisme du Christ. Les prêtres participent pour leur part à ce don de la grâce qui nous restitue à la capacité de vivre dans la joie la plaie. Quand le Christ les fait ministres, il les fait au milieu des nations, assurant ce sacré service de sa présence par la proclamation de la bonne nouvelle, l'Évangile, qui veut rejoindre toutes les nations et permettre à chacun, dans sa culture et sa langue, d'offrir une offrande agréable de sa vie, d'être sanctifié par l'Esprit Saint. L'annonce apostolique de l'Évangile convoque, rassemble le peuple de Dieu et tous les membres sanctifiés pour qu'ils puissent s'offrir eux-mêmes dans le Seigneur, en offrir, en victime, en hostie vivante, sainte et agréable. Romains chapitre 12, verset 1. Mais c'est par le ministère des prêtres qu'est consommé ce sacrifice spirituel des chrétiens en union à l'unique sacrifice de l'unique médiateur, le Christ. En s'offrant dans l'Eucharistie par les mains du prêtre, par la parole du prêtre, le Christ est bien présent et il permet en victime non sanglante à chacun d'être rejoint par le salut. Plus besoin donc d'offrir sur les autels la vie de nos enfants pour obtenir de Dieu. Il suffit pour cela de nous ouvrir à Dieu et avec lui d'accepter humblement ce que nous sommes pour mieux le vivre avec nos frères. Chacun par nos dons, nous nous complétons et nous reconnaissons la plénitude d'un amour qui nous précède. Christ est l'aboutissement, le début, mais aussi le terme et la plénitude, la totalité de cet amour qui nous a été donné par Dieu, qui fait de nous des dons de Dieu, des cadeaux de Dieu. La société dans laquelle nous participons, celle de tous ceux qui ont marché à la suite du Christ, l'Assemblée des saints, est offerte universellement par ce grand prêtre qui est la tête du corps. Et les prêtres, ministres ordonnés par le sacerdoce, au milieu de leurs frères, qui peuvent rendre un culte à Dieu par leur vie, en offrande agréable de partage, eh bien, sont conscients de ce qu'ils sont invités librement à reconnaître et à faire partager à leurs frères. Les prêtres, chacun pour leur part, ont à restituer à Dieu à la suite des apôtres cette onction sainte que Dieu veut faire couler sur chacun. Les prêtres, ministres en la personne du Christ, nous approchent de l'amour agissant du Seigneur. Par leur ascèse, c'est-à-dire par cet effort qu'ils font pour échapper à eux-mêmes, non pas à la nature humaine, mais dans la nature humaine, à être toujours plus conforme au Christ et au salut, à la vie éternelle, est un témoignage porté du salut qui est offert à tous les hommes par l'action, par la vie du Christ. Ils sont invités à porter la reconnaissance des dons mis en œuvre dans l'Église et invitent chacun à accepter l'ouverture, le dépassement de lui-même. Le ministère exige que chaque prêtre prenne modèle, non pas sur le monde, mais sur le divin maître, et invite les hommes et les femmes à ne pas se sentir accusés d'être fragiles, mais confortés par l'amour qui les soutient et les encourage, à devenir eux-mêmes encouragement et action de grâce pour ce qui est venu de Dieu. En effet, le Seigneur, à travers ses fils de prédilection, les prêtres, nous invite à nous ajuster sans cesse à son amour qui a triomphé de toute limite et de tout enfermement. Quand il voit le prêtre, les hommes, les femmes, ses frères en humanité, doivent trouver dans le quotidien cette force, cette action de l'Esprit Saint que Dieu nous a offert en Jésus depuis la croix et qui nous invite à sans cesse nous retourner vers le Créateur afin de recevoir et d'offrir par lui et à lui ce qui vient de lui. Le curé d'Ars a tenté de le montrer à ses paroissiens. Le premier qu'il ait rencontré lui avait indiqué le chemin d'Ars et le saint curé lui avait dit « Eh bien, puisque tu m'as montré le chemin, je te montrerai le chemin du ciel. » Il l'a fait par une vie toute livrée au Christ. Il a mené le combat non pas seulement contre le malin, le grappin comme il l'invitait à renoncer, mais aussi eh bien, par un renoncement à lui-même. Combien de fois a-t-il été tenté de rejoindre la quiétude d'une vie à Dieu seul, à échapper aux difficultés du quotidien. Mais toujours, eh bien, il se replongeait dans le Seigneur et accueillait de Dieu le pardon qu'il proposait à ses frères. Avec le Père José, tout au long de cette semaine, nous allons déployer ces dons de la grâce à travers le ministère sacerdotal, déployer la spécificité du ministère sacerdotal. C'est vraiment une joie pour moi qui, ordonné depuis 17 ans maintenant, eh bien, pour la première fois cette occasion de vous partager la joie de vivre ce que j'ai reçu et avec vous de mieux le découvrir comme le don que Dieu nous fait et qu'en Jésus-Christ il a mené à sa perfection pour nous emmener dans l'amour éternel, l'amour infini qui ne connaît aucune limite. Rendons grâce à Dieu et à la suite de l'invitation du Saint-Père, prions pour qu'il nous envoie beaucoup de prêtres, de saints prêtres, de très saints prêtres. Amen.